Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons toujours encore cette série, il y en a pour encore un bon moment, l'importance de la rédemption. Nous pouvons aussi ajouter l'importance d'être certain d'être sauvé, d'avoir accepté la main tendue de Jésus-Christ. Le titre pour aujourd'hui, numéro 27, sera « Instruction aux nouveaux convertis ». C'est la première partie, il y a deux parties, mais c'est beaucoup trop long pour un CD. Donc, première partie de « Instruction aux nouveaux convertis ». Je ne dis pas que chaque phrase doit être acceptée comme étant uniquement ça, les critères possibles, mais c'est en quelque sorte une Einleitung, comment est-ce qu'il faut dire en français ? Une directive que j'essaie de vous donner, à vous de la compléter avec vos connaissances. Chers amis, voyez-vous, ceux qui lisent leur Bible se rappelleront en quelques occasions cette parole qui fut prononcée et qui est aussi qui l'a prononcée. Elle fut adressée par Jésus-Christ à pas n'importe qui, à l'apôtre Pierre, oui, à lui, après qu'il avait renié son Seigneur et qu'il a eu fait profession de repentance. Et croyez-moi, il était comme nous devons l'être, sincère. Faut pas seulement faire les choses intellectuellement, avec sa bouche, mais ça doit venir, comme vous le dites aujourd'hui, moi je dirais du fond du cœur et de notre esprit, mais vous dites peut-être ça vient des tripes, pourquoi pas. Jésus-Christ lui a fait cette question pour lui rappeler d'une manière personnelle à la fois son péché et l'amour de Christ. Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Cette question impliquait un doute sur la réalité de l'amour de notre cher apôtre Pierre. Pierre répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Dans certaines versions allemandes, puisque je suis de langue allemande, eh bien, il est dit « Pierre avait une respectueuse admiration pour son maître. » C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est merveilleux. Donc, nous pouvons prendre la version française en la comprenant un peu plus profondément. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Vous savez, pour ma sainte épouse défunte, il y a plus de 20 ans, par négligence médicale, oh là là, c'était, comme vous dites aujourd'hui, j'ai eu un coup de bambou. Pardonnez-moi, je suis qu'un être humain. Eh bien, il y avait beaucoup plus qu'une simple affection pour l'un et l'autre. Mais je ne veux pas commencer à pleurer devant vous. ça va pas arranger les choses, mais vous m'avez compris. Alors Jésus lui dit, paix, mes agneaux. Et puis comme s'il voulait lire au plus intime de l'âme de son cher disciple Pierre, toujours ferme, répond encore promptement, oui Seigneur. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais très bien que j'ai de l'affection pour toi. Il insiste comme s'il voulait sonder les pensées les plus secrètes de Pierre pour voir, oui, pour voir, si jamais il pourrait le renier encore, va savoir. Pierre fut vraiment touché, mais il fut en même temps attristé. Il ne se laissa pas emporter par ses dispositions naturelles, parce que c'était quelqu'un qui pouvait réagir, et c'était un tempérament, comme on dit, hein. C'était une forte nature. Il ne se vanta pas comme précédemment en disant, tu sais bien, voyons, même s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 35. Et là, nous n'avons pas besoin de prendre une version allemande. Il fut vraiment attristé. Il fut en même temps brisé. Il parla avec calme. Il en appela au Sauveur lui-même, comme s'il le suppliait de ne pas douter plus longtemps de sa sincérité. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Entre nous, permettez-moi de dire, tu sais que j'ai beaucoup plus que de l'affection pour toi. Pardonnez-moi d'ajouter cela. Christ alors lui confia sa mission définitive. Paix, mes brebis, verset 17. Pardonnez-moi de mon émotion, pardonnez-moi. Par brebis et agneau, le Sauveur désigne incontestablement ici tous les chrétiens, tous les membres de son Église que nous sommes, que vous êtes. Les agneaux représentent les nouveaux convertis, ceux qui n'ont que peu d'expérience et peu de connaissance de la piété et qui, par cela même, ont besoin qu'on leur prodigue une attention particulière et un soin assidu pour qu'ils soient préservés du mal et formés pour devenir utiles. Excusez-moi, je dois essuyer mes yeux. Ah là là, je suis pas une très forte nature, hein, faut le dire. Quand notre Sauveur a dit à Pierre de paraître, de paître ses brebis, il lui indique la tâche importante qu'il allait accomplir en veillant sur les églises nouvellement établies dans différentes parties du monde et en formant les nouveaux convertis pour qu'ils deviennent utiles aux autres et heureux eux-mêmes. Ma dernière étude précédente avait pour sujet les directions à donner aux pécheurs anxieux. Cela me conduit naturellement à considérer la manière d'agir avec les nouveaux convertis et de les instruire, les instructions que nous devons leur donner. J'ai pour but de montrer, premièrement, plusieurs choses à considérer quant aux espérances des nouveaux convertis. Deuxièmement, la manière dont ils doivent faire profession de piété et se joindre à l'Église. Troisièmement, ce qu'il ne faut pas leur enseigner. Et quatrièmement, ce qu'il est indispensable de leur enseigner. J'essaye encore un peu d'essuyer mes yeux. Voilà, je m'en excuse. Donc, chers amis, premièrement, nous avons les espérances des nouveaux convertis. On ne doit rien leur dire qui va créer chez eux une espérance prématurée. C'est-à-dire que, d'ordinaire, on ne devrait rien suggérer aux personnes convaincues de péché qui puissent leur faire croire qu'elles ont déjà fait l'expérience de la piété jusqu'à ce qu'elles le découvrent elles-mêmes. Je n'aime pas ce terme « expérience de la piété » et je ne m'en sers que parce qu'il est d'un usage courant, il est absurde en quelque sorte. Qu'est-ce que la piété ? C'est tout simplement l'obéissance à Dieu. Si vous entendiez un bon citoyen vous dire qu'il a fait l'expérience de l'obéissance au gouvernement du pays, vous diriez que c'est un non-sens. Ou bien, supposez un enfant parlant de l'expérience qu'il a faite de l'obéissance à son papa, s'il savait ce qu'il dit, il dirait qu'il a obéi à son père, tout comme l'apôtre Paul a dit aux fidèles de Rome. Il a dit « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. » Romains, chapitre 6, verset 17. Je veux dire qu'il vaut mieux, d'ordinaire, que l'expérience ou la certitude d'être converti naisse spontanément dans l'esprit des nouveaux convertis. Il peut arriver que des personnes soient réellement converties, mais à cause des notions qui leur avaient été inculquées, elles ne le réalisent pas. Nous pouvons avoir conscience de notre amour pour Dieu comme nous avons conscience de toute autre affection. Une maman, elle sait qu'elle aime ses enfants. Comment le sait-elle? Elle en a conscience. Croyez-moi, à celle qu'on vient, il y a à peine une semaine, de lui enlever son enfant dans un parc parce qu'elle s'est un tout petit moment assoupie. Ils l'ont montré aux nouvelles de 20h sur France. C'est affreux qu'elle souffre. Oh là là, c'est terrible! Elle constate que cette affection se traduit chaque jour en actes. De la même manière, un chrétien peut savoir qu'il aime Dieu. Il a conscience de cette affection et il voit l'influence qu'elle exerce sur sa conduite journalière. Quant à ceux dont la conversion est vraiment récente, ses doutes viennent généralement de ce qu'ils ont été mal dirigés, imparfaitement instruits, ou de ce qu'ils n'ont pas été humiliés à fond. Dans tous les cas, il faudrait les amener à une transformation si radicale qu'ils ne puissent plus douter. Parfois, des gens, sous l'empire d'une dépression nerveuse, tombent presque dans le désespoir. Physiologiquement, la chose s'explique. La seule manière d'agir avec ces personnes, c'est de s'occuper en premier lieu de leur santé et du rétablissement de leur système nerveux afin de supprimer la cause physique de leur mélancolie et de leur abattement. Alors, elles seront capables de recevoir vos instructions et de les mettre à profit. Si vous ne réussissez pas de cette manière à chasser leur mélancolie, leurs doutes et leurs craintes, eh bien, vous éviterez, je pense, au moins, de leur faire le mal positif que produisent, par exemple, de fausses instructions. Bien sûr, à la rigueur, quelqu'un qui a le discernement peut voir au-delà de ce que je viens d'expliquer au sujet de cette mélancolie, de cette profonde tristesse et abattement, et y voir peut-être un esprit, et je le dis un peu à ma façon, pas très catholique, mais vous savez ce que je veux dire par là, et de le chasser. Deuxièmement, il y a aussi la question de la profession de piété des nouveaux convertis. Voici certains points dignes d'attention concernant les nouveaux convertis qui font profession de piété ou se rejoignent en quelque sorte à leur église ou l'église de leur région, de leur quartier. Les nouveaux convertis devraient demander d'eux-mêmes immédiatement à être admis dans une église. Par immédiatement, je veux dire qu'ils devraient le faire à la première occasion. Ils ne devraient pas attendre trop longtemps. Si dès le début de leur vie chrétienne, ils attendent, il est très probable qu'ils attendront toujours et n'aboutiront jamais à grand-chose. Si lorsqu'ils étaient sous la conviction de péché, on leur a appris à attendre avant de se donner à Christ, ou si, après leur conversion, on leur apprend à attendre avant de témoigner publiquement par leur entrée dans l'Église qu'ils se sont donnés à Dieu, il est probable que leur vie durant, ils seront hésitants et trébuchants. La première chose à leur enseigner est ceci. N'attendez jamais lorsque Dieu vous a montré votre devoir. Quand je dis qu'il est du devoir des nouveaux convertis de s'offrir eux-mêmes à l'Église immédiatement, je ne veux pas dire qu'ils doivent être, dans tous les cas, reçus immédiatement. L'Église a le droit incontestable de prendre sur elle la responsabilité de les recevoir ou non. Quand il n'y a aucune raison d'ajournement, l'Église devrait recevoir les nouveaux convertis dès qu'ils se présentent. S'ils sont suffisamment instruits pour savoir ce qu'ils font, si l'ensemble de leur conduite permet de se fier à leur honnêteté et à leur sincérité de leur profession, je ne vois pas de motif pour différer. Mais si l'on a des raisons suffisantes, dans l'intérêt de l'Église, de les faire attendre un temps raisonnable, qu'on le fasse comme devant en rendre compte à Jésus-Christ. Qu'on se souvienne cependant de la responsabilité qu'on assume, car si l'on retient hors de l'Église ceux qui ont le droit d'y entrer, on attriste le Saint-Esprit. Il importe que les Églises agissent ici avec discernement. On a fait un grand mal en retenant les gens longtemps hors de l'Église pour s'assurer de leur piété. Cela serait presque aussi absurde que de jeter un petit enfant dans la rue pour voir s'il vivra et de dire « s'il vit, s'il paraît robuste, nous prendrons soin de lui ». Et cela au moment où il a besoin qu'on le soigne et où la balance penche pour lui vers la vie ou vers la mort. L'Église exposera-t-elle ses nouveau-nés à tous les vents en disant « s'ils résistent, s'ils vivent, qu'on prenne soin d'eux ». Or, si exposés au vent, ils meurent, c'est qu'ils devaient, hélas, mourir. Et j'ajoute, avec mon humour à moi, il y en a qui diront « Inch'Allah ». Je suis convaincu que, par suite d'un pareil traitement, des milliers de convertis ont passé leur vie sans jamais se joindre à une église. Ils sont descendus dans la tombe sans pouvoir se réjouir des bienfaits de Dieu et de la pensée d'avoir été utile à sa cause, et cela parce que l'Église, dans sa folie, les a laissés derrière la porte pour voir s'ils croîtraient et prospéreraient en dehors des institutions que Jésus-Christ a établies, particulièrement pour leur profit. Jésus-Christ dit à son Église, « Voici, prends ces agneaux, nourris-les, abrite-les, veille sur eux et protège-les. » Et que fait-elle? Elle les renvoie seuls sur les froides montagnes, parmi les bêtes sauvages. On a introduit maintenant des lynx, des loups et même des ours. Hein, c'est pas tout à fait des teddy bears, mais des vrais. Oui, elle les renvoie seuls sur les froides montagnes, parmi toutes ces bêtes sauvages, pour y être affamés ou y périr, va savoir, afin de voir s'ils sont viables ou s'ils vont pas tenir le coup. C'est aussi illogique qu'antibiblique. On peut dire un non-sens. Le Dieu d'Abraham nous enseigne-t-il une telle doctrine à l'égard des enfants d'Abraham? Jamais, jamais. Il ne faut pas embarrasser la conscience des nouveaux convertis par un examen trop minutieux sur des points de doctrine. On semble s'attendre à ce que les nouveaux convertis soient immédiatement au courant des conceptions doctrinales particulières à chaque Église et puissent répondre à toutes les questions théoriques ardues. Le résultat en est qu'ils sont troublés et donnent leur assentiment à ce qu'ils ne comprennent pas. Leur conscience en est embarrassée et, par conséquent, affaiblie. Les laisser hors de l'Église jusqu'à ce qu'ils soient au courant de tout le système de doctrine, c'est, je crois, échouer. Certaines doctrines essentielles du christianisme font partie de l'expérience de tout vrai converti. Ils en rendront témoignage si on les interroge en faisant appel à ce qu'ils savent et non de manière à les embrouiller et à les confondre. Les questions doivent être posées de façon à leur faire dire ce qu'ils savent par expérience et non ce qu'ils ont appris en théorie, et cela avant ou depuis leur conversion. Ce n'est pas un examen d'école que vous devez faire. Vous voulez savoir ce qu'il y a chez eux? Oui, un changement de cœur, par exemple. S'ils connaissent par expérience la puissance des grandes vérités du christianisme dans leur propre âme. Combien il est donc déraisonnable et injuste de les examiner comme un avocat cherchant à embarrasser un témoin un peu suspect. Troisièmement, ce qu'il ne faut pas enseigner. Quand le nouveau converti se réjouit en son sauveur et se propose de vivre pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité, combien souvent il entend dire « Vous ne vous sentirez pas toujours ainsi. Hein, attendez un peu et vous verrez. » Cette déclaration dispose son esprit à s'attendre à un déclin dans sa piété et à ne pas être trop surpris quand il le constatera. C'est ainsi que le diable désire qu'on agisse avec les nouveaux convertis et il se réjouit de ce que les chrétiens de vieille date leur disent « Vous verrez, vos sentiments ne dureront pas. » Et bientôt, vous serez aussi froid que nous. Heureusement que je ne le suis pas devenu. Quand j'ai vu pareille chose, mon cœur a saigné. Lorsqu'un nouveau converti a répandu son cœur ardent devant un vieux chrétien, un rabougri comme moi, et qu'il s'attend à ce qu'on lui réponde par de vifs épanchements, que rencontre-t-il? Cette froide réponse qui, on peut dire, qui vient sur son âme et son esprit, un peu comme le vent du nord. Et s'étant le vent du nord avec sa pluie, s'est abattu sur certains pays un peu d'une façon exagérée, en France voisine et dans d'autres pays, il y a des régions sous l'eau. Les paysans ont tout perdu. Les pommes de terre sont pourries. C'est épouvantable. Oui, vous ne vous sentirez pas toujours ainsi. Dire cela à des nouveaux convertis qui sont pleins de feu et de zèle, ça, c'est une honte. C'est préparer le nouveau converti à rétrograder comme étant une chose toute naturelle. Et puis quand il commencera à décliner, ce qu'il fera probablement sous l'influence d'une telle direction merveilleuse, il n'en sera ni surpris ni alarmé. Il regardera cette déchéance comme absolument inévitable. Et il pensera, ou elle pensera, vous avez compris, quand je dis « il », ça veut dire « il » et « elle ». Elle pensera faire comme chacun fait. Dans des prédications aussi bien que dans des prières, j'ai entendu dire que les époques de recul sont nécessaires pour éprouver l'Église. Certains pasteurs disent quand il pleut, surtout ces temps-ci un peu exagérés, on peut trouver de l'eau partout. C'est le cas actuellement. Ce n'est que dans les époques de sécheresse que vous pouvez dire où sont les sources profondes. Admirable logique. Et ainsi, vous voulez enseigner que les chrétiens doivent devenir froids et stupides et s'éloigner de Dieu, mais pourquoi? Eh bien, pour montrer qu'ils ne sont pas hypocrites, c'est presque merveilleux. Non, ce n'est pas merveilleux. Une telle doctrine est la dernière qu'on devrait enseigner aux nouveaux convertis. On devrait leur dire qu'ils n'ont fait que débuter dans la vie chrétienne et que leur piété doit consister à faire des progrès. On devrait leur enseigner à progresser et à croître en grâce continuellement. Dieu dit : le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que le jour soit dans sa splendeur. Proverbe chapitre 4, verset 18. Or, de qui donc est le sentier qui devient de plus en plus sombre jusqu'à la nuit complète? On doit produire en eux une telle disposition d'esprit que les premières indications d'un déclin dans leur piété ou dans leur zèle les alarment et les stimulent au devoir. Ce n'est pas une nécessité que les nouveaux convertis se relâchent. Saint Paul ne tomba pas dans le relâchement, croyez-moi. Et je ne doute pas que cette doctrine, vous ne vous sentirez pas toujours ainsi, comme certains disent, ne soit une des plus grandes ruses de l'ennemi pour produire le résultat qu'elle prédit. Apprenez à marcher par la foi et non par la vue. C'est ce qu'on dit parfois aux nouveaux convertis pour qu'ils persévèrent dans la piété vivante. C'est là, en quelque sorte, une perversion manifeste de l'Écriture sainte. S'ils commencent à perdre leur foi et leur zèle et à être dans l'obscurité, un vieux chrétien comme moi leur dira: vous ne pouvez pas vous attendre à avoir toujours le Sauveur avec vous. Moi, je ne dirai jamais cela. Vous avez marché par la vue, il vous faut apprendre à marcher par la foi. C'est-à-dire que vous devez apprendre à devenir froid comme la mort et vous accrocher ensuite à la doctrine de la persévérance des saints comme à votre seule espérance de salut. Et on appelle cela marcher par la foi. Cessez de persévérer, puis attachez-vous à la doctrine de la persévérance. C'est là la plus infernale dérision. Vivre dans la joie de la faveur de Dieu et dans la consolation du Saint-Esprit, voilà ce que l'on appelle marcher par la vue. Pensez-vous que les nouveaux convertis voient réellement le Sauveur quand ils croient en lui, quand ils sont remplis d'une joie céleste? Pensez-vous qu'ils voient réellement le ciel et qu'ainsi ils marchent par la vue? Ça, c'est une absurdité. Ce n'est pas la foi, c'est la présomption qui fait qu'un rétrograde s'attache à la doctrine de la persévérance comme si cette doctrine pouvait le sauver sans exercice réel de piété. Ceux qui essayent de marcher par la foi de cette façon-là feraient mieux de prendre garde, sinon ils iront en enfer avec leur foi. Leur foi, que dis-je? La foi sans les œuvres est morte, nous est-il dit dans Jacques, chapitre 2, verset 20. Une foi morte peut-elle, je vous le demande, faire vivre l'âme et votre esprit? Il faudrait peut-être pouvoir réécouter ce passage, parce que c'est pas si simple de le comprendre. Attendez jusqu'à ce que vous voyez, par exemple, attendez jusqu'à ce que vous voyez si vous pouvez tenir le coup. Quand un nouveau converti, plein de zèle et de ferveur, sans le besoin de se dépenser pour Dieu, un vieux chrétien comme moi, plein de prudence, trop de prudence, l'avertira de ne pas aller trop vite. Vous feriez bien de ne pas vous élancer tellement en avant, on va leur dire. Attendez de voir si vous pouvez continuer, si vous avez assez d'argent et je ne sais pas tout quoi. Il peut arriver qu'on vous dise, si vous montez si haut et que vous tombez, votre chute discréditera l'Évangile. Cela veut dire, ne faites rien de ce qui constitue la piété jusqu'à ce que vous voyez si vous avez de la piété. La piété consiste à obéir à Dieu. Eh bien, ces sages docteurs disent aux nouveaux convertis, n'obéissez pas à Dieu jusqu'à ce que vous voyez quoi ? Jusqu'à ce que vous voyez si vous lui avez obéi ou jusqu'à ce que vous voyez si vous avez obtenu cette substance, cette chose mystérieuse qu'il s'imagine être créé et placé dans l'homme comme un morceau de nouvelle chair et qu'ils appellent la piété. Ce système d'attendre est entièrement faux. Aucun passage biblique ne vous autorise à dire à quelqu'un d'attendre et d'attendre encore et encore quand le commandement de Dieu le presse, quand le chemin du devoir est devant lui, qu'il aille donc de l'avant. Il faut imprégner les jeunes convertis du principe que la seule manière conséquente de découvrir s'ils ont de la piété consiste à constater qu'ils sont de cœur et d'esprit engagés à faire la volonté de Dieu. Dès lors, dire à un converti d'attendre jusqu'à ce qu'il ait cette assurance ou qu'il ait plus un cheveu sur la tête, quand en réalité il ne s'est pas encore appliqué à faire la volonté de Dieu, c'est un renversement de l'ordre, c'est une absurdité. D'autres vous diront, attendez d'avoir de la force avant de porter votre croix. Cette maxime est appliquée à divers devoirs religieux, quelquefois à la prière, comme si la prière était une croix. J'ai entendu conseiller à de nouveaux convertis de ne pas essayer de prier dans leur famille, de ne pas essayer tout de suite de prier dans des réunions fraternelles. Attendez d'avoir de la force, comme si l'on pouvait prendre de la force sans aucun exercice. Moi, je ne peux pas. La force vient de l'exercice. Or, la paresse, elle la tue. Laissez un bébé toujours couché dans son berceau et il n'aura jamais de force. Quand j'étais entre la vie et la mort pendant près de 8 ans, j'ai dû réapprendre à marcher. La première fois que j'ai essayé de tenir debout, je me suis affalé ou écrasé par terre comme un sac de pommes de terre. Rien ne peut suppléer à l'exercice pour produire de la force. Il en est de même pour l'esprit, les affections, pour le jugement et pour la conscience. Toutes les facultés de l'âme et de l'esprit se fortifient par l'exercice. Je n'ai pas besoin d'expliquer la logique d'une chose que chacun sait. Si l'esprit n'est pas exercé, le cerveau ne se développe pas et l'on devient idiot. Oh, pas tout de suite. Si les affections ne sont pas exercées, on devient stoïcien. S'il veut croître en force, eh bien qu'il se mette à l'œuvre. Vous savez, j'ai appris le français uniquement par l'oreille, ayant pu faire que 4 ans d'école primaire dans ma langue maternelle allemande, une histoire très triste, eh bien, j'ai appris comme j'ai pu en écoutant parler les autres. Et maintenant, je vous parle cette étude aussi bien que je peux, mais sans, je dois dire la vérité, sans prier d'abord, avant de commencer, de vous parler pour que l'Esprit Saint m'aide, s'empare de moi. Je dis au Seigneur, tu sais que je ne peux pas par moi-même. Il faut pas avoir peur de dire la vérité, d'être un peu humble. Je lui dis, alors il m'aide, et voilà, je vous parle cette étude dans la langue française aussi bien que possible. Et c'est à force de parler que l'exercice permet de pouvoir avancer, de pouvoir m'exprimer, si je ne le faisais pas du tout. Oh là là, je crois que ce serait difficile. Hein. Quand je vois des nouveaux convertis embrasser fortement des particularités sectaires, peu importe de quelle dénomination, il y en a tellement aujourd'hui, j'éprouve toujours des doutes à leur sujet. Quand je les entends demander « Croyez-vous à la doctrine de l'élection ?» ou « Croyez-vous au baptême par aspersion ?» ou « Au baptême par immersion ?» Un jeune me disait dernièrement « Est-ce que vous savez que si vous ne parlez pas en langue, même en étant très sincère pour le Seigneur, vous irez tout droit en enfer. Il n'y a que ceux qui parlent en langue qui peuvent accéder au ciel. » Je suis un peu peiné, hein, d'entendre des choses qu'ils disent avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'assurance, voire un peu trop quand même. Je n'ai jamais vu que de tels convertis aient beaucoup de valeur. Leur zèle sectaire, souvent exagéré, aigrit bientôt leurs sentiments, détruit toute la vigueur de leur piété, transforme toute leur conduite en une coupable bigoterie sectaire. Ils deviennent très zélés pour les traditions des anciens, mais très peu pour le salut des âmes. Et quatrièmement, ce qu'il est indispensable d'enseigner. Une des premières choses que doit apprendre le nouveau converti, c'est à distinguer en matière religieuse entre une émotion et un principe. Je désire que vous saisissiez bien la portée de mes paroles. Par émotion, j'entends cet état d'âme dont nous avons conscience et que nous appelons sentiment. État involontaire qui se présente naturellement lorsque nous nous trouvons dans certaines circonstances ou sous certaines influences. Les sentiments peuvent être fortement émus, ou bien se calmer, ou bien disparaître entièrement. Mais ces émotions doivent être soigneusement distinguées des principes religieux. J'entends une décision volontaire du cœur et de l'esprit, une ferme détermination de faire notre devoir et d'obéir à la volonté de Dieu par laquelle la vie du chrétien doit toujours être dirigée. Quand un homme est pleinement décidé à obéir à Dieu, parce qu'il est juste obéir à Dieu, j'appelle cela un principe. Qu'il sente ou non, à n'importe quel moment, une vive émotion religieuse, il fera son devoir joyeusement, promptement et de tout son cœur, quel que soit l'état de ses sentiments. C'est là agir par principe et non par émotion. Beaucoup de jeunes convertis ont des vues erronées à ce sujet. Ils dépendent presque entièrement de leurs sentiments et de leurs émotions pour aller de l'avant dans l'accomplissement de leurs devoirs. Quelques-uns ne veulent diriger une réunion de prière. Ils refusent. Et cela, que si leurs sentiments leur donnent à croire qu'ils pourront faire une prière très éloquente, à faire coucher par terre ceux qui écoutent, ou les faire tomber de leur chaise. C'est une expression française, je crois. Des multitudes de gens sont influencés presque entièrement par leurs émotions et se laissent aller ainsi, comme si elles n'étaient pas obligées au devoir, à moins d'y être sollicitées par une forte émotion. Elles seront très zélées pour la religion tant que leurs émotions seront ardentes et vives. Mais leur piété n'aura point de consistance et ne pénétrera pas tous les détails de leur vie. Elles ne sont pieuses que lorsque elles y sont contraintes par débordement de sentiments. Or, ça, ce n'est pas là la véritable piété. On doit enseigner soigneusement aux nouveaux convertis que lorsque le devoir se présente à eux, ils doivent le faire. Quelque morne que puisse être leur sentiment, si le devoir appelle, qu'ils le fassent. Très probablement, les sentiments que vous attendez ne viendront que lorsque vous aurez commencé à faire votre devoir. Si ce devoir est la prière et que vous n'avez pas les sentiments que vous désirez, ne les attendez pas pour prier, mais priez tout simplement et ouvrez votre bouche. Si possible, aussi grand que possible, pourquoi pas, selon le psaume 81, verset 10. Même une petite prière timide, quelques phrases, quelques mots qui viennent du cœur, du profond de vous-même, croyez-moi, c'est tout ce que le Seigneur demande. Il ne demande pas de nous de faire des prières éloquentes pour montrer aux autres combien nous sommes enfin devenus spirituels. C'est en le faisant qu'il est le plus probable que vous aurez les émotions que vous attendez et qui constitue le bonheur conscient de la piété. On doit apprendre aux nouveaux convertis qu'ils ont, comme tels, renoncé à leurs biens et à eux-mêmes, et que s'ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas leur laisser croire qu'ils possèdent de quoi que ce soit en propre, tant les biens, l'influence, les facultés, le corps ou l'âme. Vous n'êtes point à vous-même. Selon 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ils appartiennent donc à Dieu, et lorsqu'ils se sont soumis à Dieu, ils lui ont librement tout livré pour qu'il dirige tout et dispose de tout selon son bon plaisir. Apprenez aux chrétiens comment cultiver une conscience délicate. J'ai été souvent étonné de trouver combien peu de conscience il y a, même chez ceux que nous espérons être chrétiens, et nous en voyons ici la raison: leur conscience n'a jamais été cultivée. Ils n'ont pas même la bonne conscience de l'homme irrégénéré. Ils ont tellement malmené leur conscience et lui ont résisté si souvent qu'elle est, on peut dire, émoussée et n'agit plus du tout. Il y a des criminels horribles. Il y a ces jours-ci un qui a récidivé, on dit, je crois, et il a à nouveau, à peine sorti de prison, violé même une fille de pasteur, et il l'a tuée en sortant de prison. Voyez-vous? Et il n'a aucune émotion, aucun repentir, il ne s'excuse pas, rien, rien. Il trouve que c'est son instinct, je peux vous dire que c'est autre chose, que là, il y a quelqu'un qui domine un tel être, une entité diabolique. Vous savez ce que je veux dire par là. L'utilité d'un chrétien dépend en grande partie de la culture qu'il s'est donnée à sa conscience. On doit apprendre aux nouveaux convertis à conserver leur conscience aussi délicate que la prunelle de l'œil. Ils doivent veiller sur leur conduite et sur leur mobile. Leurs mobiles doivent être si purs et leur conduite si désintéressée que la conscience n'en soit ni blessée ni étouffée. Ils doivent si bien entretenir l'habitude de l'écouter qu'elle soit toujours prête à rendre un arrêt rigoureux, carrément, en toute occasion. Il est étonnant, vous savez, de voir combien la conscience peut être développée par un procédé approprié. En y portant une attention suffisante, la conscience peut devenir si pure et si puissante qu'elle se mettra toujours à l'unition de la sainte parole de Dieu. Présenter à un tel chrétien un devoir ou un acte de renoncement quelconque ou une épreuve à endurer et montrer-lui seulement la sainte parole de Dieu, et il ou elle obéira sans rien objecter. En peu de mois, les nouveaux convertis peuvent avoir une conscience si délicatement équilibrée que le poids d'une plume suffirait à faire pencher la balance. Dites-leur seulement, ainsi a dit l'Éternel, et ils seront toujours prêts à agir. On doit apprendre aux nouveaux convertis à prier sans cesse. Et je répète, même si c'est que deux ou trois phrases qui sont toutes simples, comme un enfant parlerait à son papa. C'est-à-dire à toujours veiller sur leur esprit et de conserver en tout temps cet esprit de prière. Et cela, quoi qu'il arrive. Je répète, avoir l'esprit de prière est 100 fois mieux que savoir faire des prières savantes pour simplement épater la galerie. Faute de bonne direction sur ce point, bien des nouveaux convertis déclinent et bientôt vivent très loin de Dieu. Par exemple, il arrive qu'un nouveau converti tombe dans quelques péchés et se sente comme incapable de prier. Bien sûr, ça peut nous arriver à tous. Et ça m'est aussi arrivé. Il ne faut pas avoir honte d'être un peu humble. Au lieu de surmonter ce sentiment, il éprouve une telle détresse qu'il attend que le moment aigu de la douleur ait passé. Au lieu d'aller aussitôt à Jésus-Christ, au milieu de son agonie, de lui confesser sa faute de tout son cœur, d'obtenir le pardon et de goûter à nouveau la paix, il attend que l'intensité de ses sentiments ait diminué. Et alors, sa repentance, si toutefois il se repent, elle est devenue froide et totalement superficielle. Mes bien-aimés, n'agissez jamais ainsi, mais quand votre conscience vous presse, allez à Christ, confessez entièrement votre péché et répandez votre cœur devant Dieu. On doit se donner beaucoup de peine pour prémunir les nouveaux convertis contre l'esprit de critique. Eh oui, lorsqu'ils se sont pour la première fois rangés du côté du Seigneur dans toute leur ferveur, souvent ils trouvent les vieux chrétiens si froids et si morts qu'ils sont fortement tentés de les critiquer. Il faut redresser cela immédiatement, sinon l'habitude de critiquer empoisonnera leur esprit et détruira également leur piété. Évitons toujours d'aider notre prochain, si nous le voyons ou la voyons, de trop critiquer, de freiner cela avec tact et avec amour, avec humilité. Ils doivent apprendre à dire non. C'est là, pour beaucoup, une leçon très difficile. Voyez cette jeune femme, avant sa conversion, elle aimait les cercles joyeux, les plaisirs du monde. Elle allait dans des clubs de gougarde, un nouveau mot à la mode qui a rien de très religieux, croyez-moi. En se joignant à l'église, elle s'est vue abandonnée de ses anciens amis. Celle-ci ne lui parle plus de bals ou de grandes invitations de venir dans ces clubs d'échangistes de gougardes, sachant qu'elle ne se joindra pas à eux. Peut-être la laisse-t-elle tout à fait de côté pour un temps, de peur qu'elle ne leur parle de leur âme. Mais plus tard, elles deviennent plus hardies et quelques-unes se hasardent à lui proposer une sortie en auto avec quelques amis. Elle n'aime pas dire non pour ne pas blesser, pour ne pas faire de la peine, car ce sont quand même ses anciennes amies. Elles sont en petit nombre, d'ailleurs, une sortie, c'est une récréation fort innocente, disent-ils, qu'elle ne peut surtout pas refuser, surtout si l'une d'elles a son anniversaire. Cependant, elle a commencé à céder. La glace est brisée. Les amis la considèrent de nouveau comme une des leurs. Cela continue et elle commence à prendre part aux visites mondaines. Quelques amis seulement, vous savez, jusqu'à ce qu'un jour, on enlève le tapis et là, on se lâche. C'est un mot à eux. Je vais me lâcher. Et après, peut-être, ira-t-elle un samedi soir là où il ne faut pas. Elle rentre à la maison après avoir fumé un joint ou deux à 2-3 heures du matin, dort toute la matinée du dimanche pour essayer de s'en remettre. Peut-être même un jour de communion. Tout cela pour n'avoir pas appris à dire non. Voyez ce jeune homme. Pendant un temps, il était toujours à sa place à l'école du dimanche et à la réunion de prière. Mais peu à peu, ses anciens amis commencent à le traiter de nouveau avec égard et pas à pas à l'attirer. J'ai une histoire vraie d'un ami que j'avais, il est mort depuis. C'était un ancien prêtre qui est sorti pour des raisons que j'ai pas trop voulu tenir en mémoire. C'est pas toujours utile. Et il s'est mis à beaucoup boire dans les bistrots du quartier. Il avait des amis de beuverie. Et un jour, il a reçu un héritage de sa mère défunte. Il a mis tous ses billets de banque dans un sac d'un supermarché. Et des copains l'ont vu, ils ont dit « Jean, viens, on a deux anniversaires à fêter, viens fêter ça avec nous, tu es notre copain, rappelle-toi. » Il n'a pas pu dire non. Et en buvant de plus en plus, hein, il ne s'est pas trop souvenu où il a mis son sac bourré de billets de banque. Il y en avait tout de même pour passer 200 000 francs, suisse, et son sac de tous ses gros billets de banque a disparu. Et comme il était plus tout jeune, c'était une catastrophe. Voilà donc, en quelque sorte, que l'ennemi, ou si vous voulez, Dieu a permis à l'ennemi de donner une punition épouvantable à cet ancien prêtre. Tout ça, c'est triste. Oui, très triste, voyez-vous. Donc, apprenez à ces nouveaux convertis à ne rien compter de ce qu'ils font comme étant un sacrifice pour Dieu. Certaines personnes parlent toujours des sacrifices qu'elles font. Ce n'est pas en disant non si ce cher ami Jean, ancien prêtre, avait dit non. Ce n'est pas un terrible sacrifice. Je n'ai point de confiance dans une telle piété où quelqu'un est incapable de dire non à des choses qui sont plus que scabreuses. Si elles aimaient Dieu, ces âmes, et si leur intérêt était uni à ceux de Jésus-Christ, elles ne diraient pas toujours qu'elles font des grands sacrifices en disant non. Ce serait aussi ridicule que de parler de ceux qu'elles font pour elles-mêmes. Il est d'une grande importance qu'on enseigne aux nouveaux convertis à être strictement honnêtes. J'entends par là plus que vous ne pensez peut-être. C'est une grande chose que d'être strictement honnête. C'est être très différent du monde, tout simplement, et même très différent de la grande masse de certains chrétiens. L'homme le plus saint que j'ai connu et qui a été longtemps pasteur me dit un jour cette remarque. Frère, c'est une grande chose que d'être absolument honnête, droit, juste en toute chose, et tel que l'œil pur de Dieu puisse voir que le cœur et notre esprit est parfaitement droit. Il est très important que les nouveaux convertis comprennent ce que c'est que d'être parfaitement honnête en toute chose afin qu'ils conservent une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Hélas, hélas, combien peu de conscience il y a. Combien peu de cette véritable honnêteté, cette pure et simple intégrité qui devrait caractériser la vie d'un enfant de Dieu. Avant de terminer par la prière, je voudrais vous dire, pensez-y sérieusement. Quel est celui qui entrera au ciel selon la sainte parole de Dieu? Lisez le psaume 15 et jugez. Celui qui garde sa parole, même à son préjudice, et qui ne change point. Qu'en pensez-vous? Si un homme, et quand je dis un homme, vous avez bien compris, ça inclut la femme, si un homme a promis de faire quelque chose, à moins que ce ne soit de commettre un péché, qu'il tienne sa promesse s'il a l'intention d'être honnête et d'aller au ciel. Mais ces gens font des promesses et parce qu'ils ne peuvent pas être poursuivis, ils y manquent comme si ce n'était rien du tout. Ils ne voudraient pas que un de leurs chèques soit refusé à la banque. Pourquoi ? Parce qu'ils perdraient leur crédit et seraient poursuivis. Quoi ? Vous faussez votre promesse et les mains pleines de mensonges, vous allez devant Dieu. Si vous refusez ou négligez de remplir vos engagements, vous êtes un menteur. Et si vous persévérez dans ce péché, vous aurez votre part dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pas moi qui le dis. Je ne voudrais pas pour 10 000 mondes mourir ayant dans les mains un argent que j'aurais dérobé à un couple de retraités. Un tel argent rongera comme la gangrène. Lisez 2 Timothée, chapitre 2, verset 17. Si vous n'êtes pas en mesure de payer, c'est une bonne excuse, d'accord? Dans ce cas, dites-le. Mais si vous refusez de payer ce que vous avez promis parce que vous avez changé d'avis, vous êtes coupable. Il me vient juste à l'idée que je dois à quelqu'un 6 francs. qu'elle m'a prêtées pour des lames de rasoir. Vous ne pouvez prier tant que vous n'avez pas versé ce qu'on vous a prêté ou donné. Prêté plutôt, prêté. Direz-vous dans votre prière, « Ô Seigneur, j'ai promis de rendre cet argent, hein ? Mais Seigneur, vois-tu, j'ai changé d'avis. Je manque donc ainsi à ma promesse. Seigneur, je te prie de me bénir malgré mon relâchement et malgré mon mensonge, et de me pardonner ma faute, quoique je retienne cet argent, et de me rendre heureux dans ton amour. Mais, chers amis, de telles prières, je vous le demande, seront-elles vraiment exaucées ? Jamais, jamais ! C'est impossible ! Nous allons donc terminer maintenant, si vous le voulez bien, par la prière. Avant, je voudrais vous dire une phrase, je ne sais pas comment on dit, d'un ancien cantique. Enseigne-moi par ton esprit à t'invoquer en assurance et donne-moi la confiance d'un simple enfant au Jésus-Christ. Prions. Oui, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme le Péager, que nous sachions te confesser nos péchés et t'en demander le pardon au nom de celui dont le sang nous purifie de tout péché. Enseigne-nous à prier avec une sainte hardiesse, appuyée sur des promesses qui sont oui et amen en notre Sauveur, et comme ayant le droit, si nous le prions en son saint nom, et selon sa volonté, d'être exaucés de lui. Enseigne-nous à prier comme n'ayant rien et ne pouvons rien pour nous-mêmes, mais comme ayant toutes choses en toi et pouvons toutes choses par toi. Enseigne-nous à prier sans cesse et à ne pas nous relâcher. Tu n'es pas un juge inique, Seigneur, pour être importuné par nos prières, mais tu es un Père miséricordieux qui exerce la persévérance à la foi de tes enfants et qui les exauce merveilleusement. Pardonne-nous la langueur, la mollesse, le découragement de nos prières et donne-nous de prier avec assez de foi pour n'être point étonné quand tu nous exauces. Enfin, Seigneur, enseigne-nous à te prier avec un cœur pénétré de reconnaissance pour tous les bienfaits et à te glorifier par nos louanges. Fais-nous cette grâce pendant cette journée et que nous la passions en ta présence et dans la communion de notre Sauveur par le Saint-Esprit. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, à demain matin, Diane debout, pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis.